Et votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bonjour messieurs, dames et bienvenue pour cette nouvelle émission de Culturez-vous, l'émission de pop culture de Transistor. Ah, le joli mois de mai. Ses ponts, ses arbres en fleurs, ses terrasses plus ou moins ensoleillées, mais aussi son rendez-vous ciné incontournable, plein de paillettes et de montées de marches, je parle bien sûr du Festival de Cannes. Chaque année, ce festival de cinéma met en avant des dizaines de films et montre que le 7e art tient bon. Créé en 1895 par les Frères Lumière, le cinéma est encore aujourd'hui l'un de nos loisirs préférés. Alors certes, le post-Covid a compliqué le retour du public dans les salles et les plateformes type Netflix, Disney+, ou Amazon n'ont clairement pas aidé, mais le grand écran résiste encore et toujours à l'envahisseur. En France, le cinéma fait depuis longtemps partie du patrimoine et s'étend à travers le monde. Alors oui, on n'en est pas au niveau du mastodonte d'Hollywood qui reste le big boss en la matière, mais on continue de sortir notre épingle du jeu en proposant des films de qualité et reconnus dans le monde entier. Prenez par exemple l'excellent film de Justine Triet, Anatomie d'une chute. Raz-de-marée de récompenses pour les Frenchies depuis l'année dernière. Premier film français à remporter 2 Golden Globes, un pour son scénario et l'autre en tant que meilleur film en langue étrangère. Pour les Oscars, ce n'est pas moins de 5 nominations, dont celle du meilleur film, s'il vous plaît. Et même si celui-ci a été gagné par Oppenheimer de Nolan, les Français sont tout de même repartis avec une statuette, celle du meilleur scénario original. Et au pays de l'oncle Sam, franchement, c'est pas rien. Si ce film a connu un tel succès, c'est bien sûr grâce à son histoire, son casting et sa réalisation, mais aussi grâce à un tremplin indéniable. Anatomie d'une chute a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2023. Un grand moment d'émotion pour la réalisatrice de 45 ans et son équipe. Mais alors qu'elle recevait son prix sur scène et après son discours de remerciement habituel, Justine Triet en a aussi profité pour tacler le gouvernement alors en place.
Mais ce soir, vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française.
Un discours politique et dérangeant qui ne va pas dans le sens du poil et qui a fait grincer quelques dents, voire toute une panoplie de dentiers. Mais après tout, que serait le Festival de Cannes sans ces polémiques? Et oui, le plus grand festival de cinéma du monde ne peut se passer de ces histoires croustillantes qui mettent du peps dans ces montées de marches bien polissées. De tout temps, le Festival international du film a dû faire face à des tempêtes, mais continue de garder le cap en restant le rassemblement incontournable des stars et des cinéphiles en goguette. Aujourd'hui, je vais vous parler de son histoire et des petits scandales qui jalonnent son parcours. Alors c'est parti, on enfile sa robe à paillettes, on prépare son plus beau sourire, direction la Côte d'Azur version Hollywood, Festival de Cannes, nous voilà, je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous. Nous sommes en 1932 et Venise crée le tout premier festival de cinéma au monde qui posera les bases pour tous les autres. Pourtant au départ, l'Italie met simplement en avant des œuvres cinématographiques internationales mais sans aucune compétition. Lors de la première édition, les classiques comme Frankenstein ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde y sont présentés en présence des stars de l'époque comme Clark Gable, Greta Garbo ou encore Boris Karloff. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 1934, que le système de concours se met en place. Chaque pays invité présente une œuvre et tente de remporter la coupe Mussolini, du nom du chef d'État fasciste alors en place en Italie. Un nom pour 2 coupes. L'une récompense le meilleur film étranger et l'autre le meilleur film italien. Les meilleurs acteurs et actrices, eux, reçoivent une médaille d'or de l'Association nationale fasciste du spectacle. Sympa. Mais quelques années plus tard, la Mostra de Venise va brutalement basculer dans la politique. Nous sommes en 1937. Alors qu'Hitler avance ses troupes en Europe, l'Italie démarre son festival de cinéma. Du côté de la France, on y présente le film de Jean Renoir, La Grande Illusion, un film qui prône le pacifisme et la tolérance. Salué lors du festival, il est immédiatement interdit en Allemagne. Hitler, et surtout son chef de propagande, Joseph Goebbels, ne supporte pas ce message de liberté et d'ouverture entre les peuples. Il décide alors de regarder d'un peu plus près ce festival vénitien. L'année suivante, en 1938, Joseph Goebbels impose tout simplement à la Mostra de faire gagner le film allemand Les Dieux du Stade. Ce documentaire de propagande de 3h30 sur les athlètes allemands durant les JO de Berlin en 1936 est une véritable ode au nazisme. Mais le règlement du festival est clair, seule une œuvre de fiction peut remporter la Coupe Mussolini. Et Les Dieux du Stade est un documentaire. Mais on ne dit pas non à Goebbels. Le festival aura droit à 2 gagnants ex aequo. Le documentaire allemand, bien sûr, et le second, un navet pro-fasciste italien produit par le fils de Mussolini, et lui aussi approuvé par Goebbels. Le jury et le public sont outrés. Les représentants des États-Unis et de l'Angleterre démissionnent même du festival. Mais si la France garde sa place au sein du festival, elle n'est pas en reste en matière de rébellion. Dans le train qui le ramène en France, Philippe Erlanger, l'un des représentants français à la Mostra, a une idée. Pour contrer ce festival tombé sous la coupe des nazis, il imagine la création d'un autre festival de cinéma, ici, en France, et qui aura pour seule influence l'art avec un grand A.
J'ai pris le train le soir même, j'ai pas pu dormir, il y avait beaucoup d'événements qui m'empêchaient de trouver le sommeil. Et c'est alors qu'il m'est venu l'idée que la place était maintenant libre pour un autre festival qui aurait été, à l'époque, nous sommes en 1938, le festival du monde libre. Le gouvernement était très divisé. Il y avait ceux qui voulaient ménager l'axe et il y avait ceux, au contraire, qui voulaient y résister.
Pour pouvoir monter son festival, Philippe Erlanger s'adresse directement au ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts de l'époque, Jean Zay. Celui qui fut assassiné par la milice en juin 1944 fut l'un des ministres les plus populaires des années 40. Véritable humaniste et passionné des arts, il approuve complètement cette idée de festival, même s'il sait que le contexte ne s'y prête guère. Et oui, les tensions au sein de l'Europe sont énormes. Hitler continue d'avancer ses soldats et compte bien envahir le plus de territoires possible. La France se prépare à une guerre éventuelle avec les Allemands, et Jean Zay, bien que conquis par le projet du festival, refuse d'y mettre de gros moyens. Mais quelques temps plus tard pourtant, il envoie quand même Philippe Erlanger faire le tour de France pour trouver LE site idéal qui pourrait accueillir un festival international de cinéma. Si Deauville ou le Touquet ont été visités, c'est surtout les villes de Biarritz et Cannes qui retiennent l'attention du comité organisateur. Bien conscient des possibles retombées économiques que peut apporter un événement pareil, les deux stations balnéaires commencent à se tirer la bourre. Toutes deux déroulent le tapis rouge à leurs invités de marque. Chacune présente son casino en tant que salle de projection et les luxueux hôtels se mettent en quatre pour séduire les Parisiens lors de leur visite. Après un duel acharné, c'est Biarritz qui remporte la mise. Mais Cannes n'a pas dit son dernier mot. Henri Gendre, célèbre représentant des hôteliers cannois, joue ses dernières cartes et propose à Philippe Erlanger de mettre à disposition son casino pour en faire une salle de projection, de prendre en charge la totalité des hébergements pour les invités, et il ajoute à ça une subvention de 600 000 francs, tout en garantissant même de rattraper les pertes financières en cas d'échec. Biarritz ne peut plus suivre. Cannes sera donc la ville d'accueil du premier festival français de cinéma.
Vous écoutez Culturez-vous sur Transistor, présenté par Audrey.
Nous sommes en mars 1939 et alors que la France tremble et s'attend à tout moment à entrer en guerre, Cannes commence ses préparatifs. Au programme du futur festival, Diffusion de films internationaux, accueil des stars et organisation de fêtes grandioses. Cannes et ses organisateurs veulent en mettre plein les mirettes. Et pour ça, on fait venir du beau monde. Fernandel a confirmé, Gary Cooper et Norma Shearer entre autres seront aussi de la partie. Louis Lumière, l'un des créateurs du cinéma, a même accepté d'être le président d'honneur. Les réalisateurs du monde entier présenteront leurs dernières œuvres, et parmi eux se trouve un certain Victor Fleming. Celui qui réalisera quelques années plus tard « Autant en emporte le vent » viendra cette année-là avec la bobine de son tout nouveau film « Le magicien d'Oz » avec en vedette la jeune Judy Garland. Septembre 1939, alors que Cannes s'est paré de mille feux pour accueillir son festival, Hitler envahit la Pologne. Tout est alors mis à l'arrêt et le festival est annulé. La France rentrera en guerre deux jours plus tard et n'en sortira que le 14 juillet 1945. Il faudra attendre 1946 pour que le festival de Cannes connaisse sa véritable première édition. Nous y voilà enfin. Le 20 septembre 1946, le premier festival de cinéma français est lancé. Et c'est un succès. La ville de Cannes, qui avait accueilli stars et jury au sein de son casino municipal, se lance même dans la construction de son palais des festivals, qui accueille encore aujourd'hui toute la faune du festival. C'est vraiment à partir de 1950 que le festival de Cannes devient le plus gros événement de cinéma à l'échelle mondiale. Déjà, il change de période. De septembre, il s'organise finalement au mois de mai, histoire de s'éloigner des dates de la Mostra et de profiter du printemps. Ses prix s'étoffent aussi et se développent au fil des ans. En place de ce qu'on appelait avant le Grand Prix, par exemple, on trouve dès 1955 la mythique Palme d'Or qui récompense le meilleur film de la sélection officielle. Malgré tout, le festival se rend vite compte qu'il est difficile de composer avec des réalisateurs connus et reconnus et de jeunes surdoués qui devraient eux aussi pouvoir trouver leur place. Alors, en 1962, ils mettent en place la Semaine internationale de la critique, permettant aux cinéastes de présenter leur premier ou deuxième film. Et c'est ainsi que des François Ozon ou Alejandro González Iñárritu ont pu être découverts. Et oui, le festival sait s'adapter en toutes circonstances. Enfin presque. En 1968, le festival va subir un événement auquel il n'était franchement pas préparé.
Nul n'avait prévu que le printemps 1968 en France serait synonyme d'émeute, de révolte ou même de révolution. Nous avons tous encore présente à l'esprit la chronologie de ces événements qui ont marqué l'histoire de France, l'autorité de l'État bafouée, l'ordre bouleversé, le régime ébranlé, le pays paralysé. Tout avait commencé par une agitation étudiante qui s'est très vite transformée en émeute.
Et oui, mai 68, ou comment des étudiants en quête de changement et d'émancipation ont fait de leur colère la plus grande grève générale que le pays n'ait jamais connue. Le 10 mai, après quelques semaines de mobilisation et d'occupation de la Sorbonne, les étudiants parisiens vont goûter aux matraques des CRS venus les déloger. Les pavés volent, les rues s'embrasent et les coups pleuvent. C'est la tristement célèbre nuit des barricades. Le lendemain, la France va alors découvrir à la télé des images de grande violence et elle va décider de s'associer à cette jeunesse mobilisée. Le 13 mai 1968 débute une grève générale qui va s'étendre sur tout le pays, embarquant les ouvriers de tous bords, las de ces salaires de misère et de leurs conditions de travail miteuses. Toute la France est littéralement paralysée. Toute ? Et non. Une ville résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cannes, bien sûr. La France brûle, mais le festival de Cannes est lancé comme prévu. Programmé du 10 au 24 mai 1968, il va cependant connaître une révolution, un élan de colère et de solidarité ouvrière porté par des réalisateurs de la Nouvelle Vague, dont les incontournables François Truffaut et Jean-Luc Godard.
La radio donne des nouvelles heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule.
Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. La seule manière pratique de le faire est d'arrêter immédiatement toute projection.
Non.
Que le festival s'arrête. Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes en Europe.
Dos au mur, Robert Favre-Lebray capitule et stoppe le festival 5 jours avant la date prévue.
Une émission de culture populaire, c'est Culturez-vous sur Transistor.
Mais n'est-ce pas ça, Cannes après tout ? Un savoureux bouillon de culture, de stars et de scandales ? Et oui, dans le monde, Cannes est aussi connu pour son glamour que pour son tapis rouge et ses polémiques. Et ça commence surtout dès les années 80. 1983 par exemple. Avant même le début des projections, l'actrice Isabelle Adjani qui vient présenter son film L'été meurtrier va être boycottée par les journalistes du festival. À chaque lancement de film, les acteurs doivent rencontrer les médias et jouer le jeu des shootings photos. Mais Adjani, visiblement déjà en mode diva, refusera. Elle subira alors les foudres des photographes qui décideront de garder leur appareil à terre et même de tourner le dos à l'équipe du film. Une montée des marches sans bruit, sans flash et sans l'hystérie habituelle. Une action coup de poing qu'on n'a jamais revue depuis. Mais visiblement, ça n'a pas trop marqué Isabelle Adjani qui reviendra, en tant que présidente du jury en 1997. Même si là encore, son délire de diva la rattrapera. Elle imposera par exemple à son jury de manger les mêmes repas qu'elle, qui à l'époque se composaient de radis, de poivrons et de protéines de synthèse.
Bon appétit, bien sûr.
On retrouve aussi sur le tapis rouge des événements, disons, insolites. Forcément, vous pensez déjà aux robes de Sophie Marceau. Et oui, si l'actrice française avait déjà vu son sein dévoilé à cause d'une bretelle de robe distendue, elle verra ensuite sa petite culotte exposée au monde entier à cause de cette fois une robe un peu trop fendue. Mais j'ai envie de dire, ça ce n'est pas grand chose comparé à son discours lunaire de 1999. Alors qu'elle s'apprêtait à décerner la Palme d'Or aux frères Dardenne, l'actrice part dans un monologue complètement perché qui sera heureusement interrompu par la maîtresse de cérémonie, Christine Scott Thomas.
Alors, je suis arrivée ici il y a une heure et demie, je voulais savoir qu'est-ce que c'est Cannes, qu'est-ce qui se passe, c'est comment l'atmosphère, c'est quoi, j'ai demandé partout. Alors j'ai eu comme ça des bribes de réponses qui me disaient « Oh Cannes, c'est chiant, mais c'est chiant, je vous le dis, c'est beaucoup mieux à Cabourg. » Et oui, d'accord, mais les films, c'est quoi les films, il y a... Heureusement, le Moldovar qui a un petit peu réveillé la croisette, il y a... Pardon ? Il y a... Enfin bon, je m'embrouille, mais je vais y arriver. Je voulais vous parler d'autre chose que du cinéma, parce qu'il y a d'autres choses importantes dans le cinéma. Et puis, j'ai passé une journée avec des enfants gravement malades. Et je peux vous dire que le cinéma est une chose qui compte dans le monde. Plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma. Et je vous dis que ça fait rêver les gens et ça leur donne un but, un projet à court terme et quelque chose qui reste pour toujours.
Monsieur le Président, le panel... pardon, je vous ai interrompu.
Si je vous ennuie, dites-le moi.
Et oui, comme vous avez pu l'entendre, à Cannes, le public aime siffler, voire gueuler. De nombreux réalisateurs en ont fait les frais, comme Maurice Pialat et son sulfureux « Sous le soleil de Satan » en 1987. Récompensé par la Palme d'Or, il va se faire joliment huer par une partie du public, auquel il répondra avec sarcasme le poing levé.
Eh bien, la Palme d'Or, à l'unanimité, à Maurice Pialat pour « Sous le soleil de Satan ». Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus.
Mais Pialat n'est pas le seul réalisateur à subir les foudres du public cannois. En 1994, Quentin Tarantino reçoit la Palme d'Or des mains du président du jury, Clint Eastwood, pour son film Pulp Fiction. Si celui-ci est aujourd'hui devenu une véritable référence de la pop culture, il avait à l'époque suscité critiques, voire mépris, de la part de certains spectateurs. Notamment pour cette femme, qui lors de la remise du prix s'est mise à hurler à travers la salle que ce film était une daube et que ça faisait chier. Tarantino, goguenard, lui répondra avec un beau sourire accompagné d'un joli doigt d'honneur.
Vous êtes sur Transistor et vous écoutez Culturez-vous.
Si certains sont donc sceptiques sur la qualité et la légitimité des films choisis par le comité de sélection, d'autres sont carrément annoncés en tant que le film qui fera scandale cette année. Ça a été le cas par exemple en 2002 avec le film de Gaspard Noé, Irréversible. Avant même sa projection, la croisette tremble quand on évoque le long métrage visiblement perturbant du jeune réalisateur que l'on entend ici.
On dit ouais, le scandale programmé du Festival de Cannes, il se rapproche, ce sera tel jour. Et il y avait déjà toute une partie de la presse qui a haïssé le film parce qu'on avait dit que ce serait le scandale du Festival de Cannes. Et effectivement, il ne faut pas grand-chose pour faire un scandale à Cannes.
Porté par un trio d'acteurs au sommet, Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel, le film va choquer la croisette avec sa brutalité et sa violence filmée sans filtre. Lors de sa projection en fin de festival, plus de 200 spectateurs quittent la salle scandalisés.
Atroce, atroce, lamentable.
C'est une insulte à l'intégrité et on a préféré abandonner au bout de même pas 10 minutes.
Il y a des gens qui le vivent, ça, vous savez.
Une horreur, votre film, une horreur. C'est une horreur.
Rejeté, conspué et condamné, ce film aura tout de même profité de l'effet Cannes pour se faire connaître dans le monde entier. Et oui, un passage à Cannes, c'est toujours l'occasion de faire parler de son film et de lui assurer une belle pub à travers le monde. Et si certains font scandale pour leur sujet ou leur réalisation, d'autres posent question rien que par leur symbolique. L'année dernière, par exemple, le film de Mai Wen, Jeanne du Barry, est présenté en grande pompe en ouverture de festival. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que son acteur principal n'est autre que Johnny Depp, aussi connu aujourd'hui pour sa carrière hollywoodienne que pour ses procès pour violence conjugale contre son ex-femme, l'actrice Amber Heard. Si aux États-Unis l'acteur n'a pas été condamné, il a tout de même perdu son procès pour diffamation contre le tabloïd anglais The Sun. Ce dernier rapportait pas moins de 14 faits de violence de l'acteur contre son ex-femme et a eu gain de cause. The Sun ne lâchera pas non plus l'affaire quand en 2023, Johnny Depp reviendra en star ultime du film de Mai Wen sur la croisette. Leur double page de l'époque titrait « Pourquoi Cannes déroule le tapis rouge à un homme qui bat les femmes ?» Ce à quoi le délégué général du festival Thierry Frémaux répondait.
« Je ne connais pas l'image de Johnny Depp aux États-Unis. Pour vous dire la vérité, nous on voit un film. Moi j'ai une seule conduite dans la vie, hein, c'est... la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté d'agir, dans le cadre de la loi. Si Johnny Depp lui avait été interdit de jouer dans un film, et si ce film-là avait été interdit, on ne serait pas en train d'en parler.
Ah là là, Cannes. Décidément, ce festival restera un paradoxe à lui tout seul. Rien que pour Jeanne Dubarry. On fait donc venir un acteur accusé de violence sur une femme, mais on met quand même en avant le droit des femmes avec notamment le collectif 50-50. Ce collectif, qui défend la parité et lutte contre les violences sexuelles dans le milieu du cinéma, avait fait sensation en 2018. 82 femmes, menées par Cate Blanchett et Agnès Varda, avaient monté ensemble les marches du palais du festival pour dénoncer le manque d'égalité au sein de l'industrie. 82 femmes pour symboliser les 82 réalisatrices retenues en compétition depuis 1946. Pour info, pour les hommes, on en est à 1688. Et sur les 82, seulement 3 d'entre elles ont remporté la Palme d'Or. Jane Campion et La leçon de piano en 1993, Julia Ducournau pour Titane en 2021 et Justine Triet pour Anatomie d'une chute en 2023. Alors comme dirait Bibi, tout doucement. Mais au moins, les lignes commencent enfin à bouger, rien que pour la présidence du festival. En 2022, c'est une femme, Iris Knobloch, qui prend la suite de Gilles Jacob et Pierre Lescu. Et cette année encore, on sent que le festival veut mettre en avant des femmes. Il nomme par exemple Greta Gerwig, présidente du jury. La réalisatrice américaine est connue pour ses idées et son dernier film particulièrement féministe, Barbie. Le festival veut renvoyer une image de changement et c'est tant mieux. En tout cas, l'édition 2024 se tiendra du 14 au 25 mai, et que vous le vouliez ou non, je pense que vous entendrez parler du festival et de ses projections. Cette année, ce sera d'ailleurs l'excellent Quentin Dupieux, le réalisateur de Yannick, qui ouvrira le bal avec son dernier film, Le Deuxième Acte. Et si celui-ci est hors compétition, vous retrouverez aussi du beau monde qui tentera de remporter la palme. Comme Gilles Lelouch, Michel Hazanavicius, Francis Ford Coppola, David Cronenberg, sans oublier Jacques Audiard qui, bon, bah lui, il est forcément là. Bref, du tapis rouge, des stars et du glamour, de quoi mettre un peu de paillettes dans nos vies en cette période un peu sombre. Alors très bon festival à vous et rendez-vous très vite pour une nouvelle émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture. Et en attendant de vous retrouver, je vous fais des bisous, des bécos et vous dis à tantôt.
Et votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.